France Inter. Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Et voilà une entreprise qui ne connaît pas la crise. Le trafic de drogue en France se porte bien. Le marché de la coke, des amphétamines, du cannabis affiche une santé insolente. Au profit d'un narco-banditisme qui règle désormais ses conflits de territoire à ciel ouvert, à l'arme lourde, avec une violence qui se banalise, notamment à Marseille. On vient d'en parler dans le journal et on va s'intéresser notamment ce soir à cette ville de Marseille. Ce trafic et cette violence en France, eh bien, ça suffit, affirme l'Élysée. Emmanuel Macron se rendra à Marseille la semaine prochaine. Le gouvernement prépare sa riposte. Après 50 ans de répression, quelles pistes sont envisagées? On verra ce qu'en pensent nos invités. Ils attendent vos questions au 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec deux invités ce soir pour répondre à vos questions, Philippe Pujol. Bonsoir Philippe Pujol.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et écrivain, lauréat du prix Albert Londres en 2014 pour une série d'articles intitulés « Quartier shit » sur les quartiers nord de Marseille. Et en studio, David Weinberger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, co-directeur de l'Observatoire des criminalités internationales de l'IRIS et ancien membre de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Et à mes côtés, Emmanuel Leclerc. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Journaliste au service Enquête Justice de la rédaction de France Inter. Avec donc ce constat, hein, en 20 ans, le nombre de personnes arrêtées en France pour trafic de drogue a doublé. Le nombre des infractions constatées a triplé, ce sont les statistiques de l'Office central antistupéfiant. David Weinberger, comment les narcocaïdes ont fait évoluer leur pratique? On a vu que c'était d'une rare violence à Marseille. Et comment est-ce qu'ils ont fait évoluer leur pratique durant au moins ces deux décennies?
Les pratiques, elles ont évolué avec différentes logiques. D'une part, le renouvellement des trafiquants, des acteurs, hein, avec de nouvelles générations de trafiquants. Hein, c'est l'histoire de la criminalité. On est passé des trafiquants qui étaient ce qu'on appelait plutôt les corsos marseillais, qui tenaient le haut de la boutique du trafic de stupéfiants, vers des trafiquants qui sont issus de nouvelles générations, que parfois on dit des cités, mais c'est plus large que ça. Puis il y a aussi des évolutions technologiques qui sont liés à les évolutions de notre monde à nous, quoi. Donc dans les années 80, quand on suivait des trafiquants, on s'intéressait à leurs voitures. Après, au téléphone, hein, on se rappelle tous des vieux films où on faisait des écoutes téléphoniques sur les cabines téléphoniques. Hein, les jeunes ne se rappellent pas de ce que c'est. La téléphonie mobile et puis aujourd'hui, les téléphonies cryptées. Tout ça intervient avec de nouveaux enjeux.
On parle aussi d'une ubérisation du trafic de drogue parce que les livraisons à domicile, finalement, c'est plus discret que de faire venir les clients sur un point de deal.
C'est une des grosses tendances de la vente au détail, hein, donc l'achat à distance, hein, avec livraison qui est en train de prendre des parts de marché significatives et qui transforme clairement en fait le panorama du trafic au détail, du petit trafic de rue.
Philippe Pujol, il faudrait peut-être expliquer comment fonctionne un réseau de drogue. Vous avez beaucoup enquêté à Marseille. Il y a les fournisseurs, les passeurs, les distributeurs, les revendeurs et puis les minots qui chouffent, hein, c'est-à-dire qui surveillent les entrées des quartiers. C'est assez segmenté. Non, Philippe Pujol?
En fait, c'est une économie à part entière. Donc, il y a toute une organisation qui se fait, qui s'adapte au fil du temps. C'est une organisation qui change et qui est vraiment, qui sélectionne les besoins du moment. Et donc, maintenant, en effet, il y a pas mal de livraisons. On vient d'en parler. Maintenant, c'est pas forcé que ça dure parce que c'est assez facile à repérer. La police. C'est pas très compliqué pour eux de résoudre des affaires qui sont liées aux livraisons. Mais il faut beaucoup de monde pour faire des trafics de stupes. C'est ce qui explique les règlements de compte, c'est ce qui explique la violence. C'est que dans les années 60-70, quand il y avait la French Connection, la drogue était faite à Marseille, notamment l'héroïne, et était vendue aux États-Unis. Et aujourd'hui, la drogue est faite ailleurs, principalement au Maroc pour le cannabis et en Amérique du Sud pour la cocaïne. Et elle est vendue dans des villes comme Marseille, au détail. Et donc, on a aujourd'hui, en Europe, et particulièrement à Marseille, les problèmes qu'avaient les Américains dans les années 70-80, avec une vente au détail qui est déléguée à des plus jeunes, à des minots, j'ai presque envie de dire souvent à des petits tocards, qui ont fait rêver avec le mythe Scarface qu'on fait rêver en leur faisant croire qu'ils grandiront. Et la plupart, ils finissent soit entre quatre murs, soit entre quatre planches, quoi. Ouais, ils ont la mort ou la prison au bout, le rien, le vide, la plupart du temps. Il y en a peu qui réussissent, très très peu.
Et dans le cas de Marseille, la procureure de la République de Marseille vient de préciser ce soir que l'une des victimes de 27 ans qui a été enfermée dans un coffre de voiture et morte, avait été dans ce coffre de voiture vivante avant de brûler la voiture, la victime brûlée par les fumées. C'est tout de même devenu, Philippe Pujol, d'une rare violence quand même.
Alors la violence a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est ce sont des plus jeunes qui s'entretuent. La violence dans les années 80, quelles que soient les guerres qu'il peut y avoir, les clans Zampa, le Belge, ou par la suite la guerre des cliniques, ou encore la guerre des casinos vers Nice, enfin toutes ces guerres-là, ont souvent généré des morts violents, sales. Le banditisme est sale par définition. Ce qui est nouveau là, c'est qu'on a des gamins. On a des 14 ans, 13 ans, 17 ans, même 27 ans. Là, c'est un vieux presque, on a envie de dire. Et la nouveauté, elle est surtout là-dessus, sur la jeunesse. Ça fait maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années qu'on a vraiment des jeunes adultes ou des ados. Et ça, c'est lié à la vente au détail. C'est lié au fait qu'on est au plus près du terrain. Donc, on va chercher des gens qui sont... pour le moment, qui acceptent de faire la basse besogne.
Ouais, cela dit, Samia Ghali, la maire adjointe d'Hiver Gauche de Marseille, disait il y a deux jours que ce n'est pas si nouveau que ça, hein, que des moins de 15 ans reçoivent des balles issues des rivalités entre gangs. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Pujol ?
Il y a toujours eu des jeunes, mais ça fait à peu près au tournant des années 2000 qu'on a eu vraiment des jeunes au tapis, pour parler comment.
Emmanuel Leclerc.
Oui, parce que comme le dit Philippe Pujol et David Weinberger, c'est que effectivement, là, à partir des années 80, dans chaque quartier, dans chaque cité, on a eu des points de deal qui se sont montés et il faut les sécuriser. Et effectivement, ça correspond la fin des années 80, la chute du mur de Berlin, des armes qui circulent en très grande quantité pour les trafiquants. Effectivement, ça a été une aubaine. Il y a eu ensuite la guerre des Balkans, beaucoup d'armes, hein, le Kosovo, la Serbie, la Croatie. Tout cela est arrivé progressivement et aujourd'hui, on se retrouve avec une quantité d'armes impressionnantes. On peut les trouver, j'ai fait le papier en fin de semaine dernière, on peut les trouver très facilement. À l'époque, dans les années, il y a encore 10-15 ans, on allait chercher des armes, les familles originaires d'ex-Yougoslavie allaient chercher des armes, les mettaient dans le coffre, se payaient le voyage avec ça. Aujourd'hui, c'est très facile, hein. David vous le confirmera, c'est sur Internet, c'est sur le dark web, on peut même les faire venir des États-Unis, c'est tout à fait légal, en pièces détachées, c'est ce qu'on m'a raconté un enquêteur. Enfin, c'est affolant, c'est des armes lourdes, hein, quand même, à chaque fois. C'est équivalent à des Kalachnikov et c'est des armes de guerre.
Alors la situation à Marseille, elle prend de telles proportions que le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, a réclamé un parquet spécial pour lutter contre les trafics de drogue. D'ailleurs, ce soir, la procureure de la République de Marseille, elle s'en étonne parce que finalement, ça existe déjà à Marseille, Emmanuel Leclerc, une juridiction spécialisée contre la criminalité.
Oui, alors c'est une juridiction spécialisée, mais qui ne prend que les très grosses affaires. Et à Marseille, il y a beaucoup d'affaires en dessous qui sont malgré tout des homicides liés à des affaires de stup, des tentatives d'homicide, des blessés par balle. Et là, ce sont les parquetiers, comme on dit, de tous les jours. Ailleurs, dans n'importe quelle autre région, ça serait justement la juridiction spécialisée qui prendrait des affaires terribles et surtout assez complexes, c'est-à-dire qui arrivent avec des cartons entiers de procédures. Et ce qui se passe surtout à Marseille, c'est ce qu'on m'expliquait à la mi-journée, c'est que au début des années 2010, la police judiciaire s'est sérieusement renforcée parce que justement il y avait eu déjà une campagne de règlement de compte effroyable, notamment ce jeune homme de 16 ans au Clos des Rosiers en 2010. Et depuis, il y a eu vraiment des enquêtes assez costauds avec des renforts, sauf qu'en réalité derrière, l'intendance, elle n'a pas suivi au niveau des magistrats. Donc c'est aujourd'hui, ils implosent face au nombre de procédures qui arrivent. En fait, en réalité, c'est parce que la police travaille de mesure mieux, il y a eu de plus en plus d'arrestations, sauf que derrière, ça ne peut pas suivre. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Plus de remises en liberté rapidement, des jeunes qui ne sont pas suivis entre le moment où ils sont interpellés et le moment où ils sont jugés. Ça, c'est des délais qui s'allongent et tout ça fait que derrière, ça peut entraîner des conséquences dans la rue avec des règlements de compte plus faciles.
David Weinberger, depuis un an, pour désengorger les tribunaux, justement, la consommation de cannabis a été sanctionnée par une amende forfaitaire de 200 euros. Est-ce que ça, effectivement, permis de désengorger la paperasse, les tribunaux?
Je sais pas, je pense qu'il faudra plus de temps pour voir un petit peu les retours, je dirais, sur les effets. En tout cas, c'est des stratégies innovantes qui cherchent des solutions. Effectivement, il faut se rappeler qu'il n'y a quand même pas énormément de magistrats par habitant en France et que de manière générale, sur toute la criminalité, ça intervient. Après, il faut bien dissocier le haut du spectre avec les GIRS ou la Junalco qui travaillent sur le haut du trafic et qui sont des gens extrêmement spécialisés et qui travaillent beaucoup. Et puis la masse de délits et de crimes qui touchent les petits revendeurs.
Allez, question ce soir au téléphone sonne sur la lutte contre le trafic de drogue au 01 45 24 7000. Nadia est en ligne. Bonsoir Nadia.
Bonsoir à tous.
Quelle est votre question ou votre commentaire?
Moi je disais tout simplement que tous les débats qu'on a depuis tant et tant d'années, c'est des débats stériles. Parce que la réalité, c'est que personne, aucun gouvernement n'ose s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire à la vraie grande mafia, à la mafia du haut, sans qui la mafia du bas n'existerait pas, tout simplement. Parce que la mafia du haut, elle a des pouvoirs, elle a des liens directs avec certains puissants. Personne ne veut s'y attaquer, on le voit par exemple en Corse, on le voit à Lyon, à Marseille, à Nice.
Nadia, quand vous parlez de mafia du haut, vous pointez les politiques en particulier ?
Oui, certains politiques. On a bien vu l'affaire Michel Néret. Vous l'avez oublié, vous, les journalistes ? Qui a fait tomber Michel Néret ? On sait très bien que tant qu'on ne s'attaquera pas à la mafia du haut, la mafia du bas restera là. Quoi.
Merci, merci de ce commentaire. On va soumettre ce commentaire, Nadia, à nos invités. Philippe Pujol, mafia du haut, fantasme ou réalité ?
Non, ce qui est certain, c'est que ceux qui gagnent des sous dans cette histoire, ce sont les grossistes, c'est ceux qui transportent les grosses quantités de drogue. Et là, on a un banditisme dit traditionnel, issu de la French Connection, qui a un peu évolué, mais qui travaille un peu avec l'Afrique, un peu avec l'Amérique du Sud, beaucoup avec le Maroc, et on est dans des imbrications parfois qui sont géopolitiques importantes. Donc il est certain que ce que cette dame appelle une mafia, qui n'en est pas toujours une, mais en tout cas qui est au moins une pègre importante, qui est au moins un banditisme important, certain qu'ils ne sont pas tellement inquiétés, parfois pour des raisons techniques, parce que ce n'est pas si simple, et souvent parce que ces gens-là ont aussi un intérêt géopolitique, justement, notamment en Afrique, qui font qu'on ne les dérange pas.
Eh bien, sur ce même thème, on va écouter Jean, au standard de France Inter. Jean, qui nous appelle de Metz. Bonsoir.
Je suis là, bonsoir à vous tous.
Merci d'être fidèle à France Inter. Votre question ?
J'ai deux questions. La première, c'est que, étant anciennement consommateur de hashish, la majeure partie des produits que je consommais venaient du Maroc. J'ai toujours entendu dire à travers les journaux que je lisais, Le Monde Diplo, Le Canard, France Inter et tout ça, que le bon roi Mohamed VI était possesseur de pas mal de plantations de ce produit. Et je me demande ce que diplomatiquement on pouvait faire pour tarir la source. Et ma deuxième question était, si on légalisait ce produit, est-ce que ça ne produirait pas des troubles sociaux dus au fait qu'une bonne partie de familles vivant dans certaines cités tirent une part importante de leur revenu, de la revente, du chouf, etc.
Alors, on va prendre vos questions dans l'ordre. D'abord sur la provenance du Maroc et des intérêts au plus haut sommet de l'État du Maroc. Qui veut répondre à ça, David Van Berger ?
Bon, alors sur la provenance, effectivement, traditionnellement, il y avait beaucoup de résines produites au Maroc et surtout dans le Rif et qui est consommée dans toute l'Europe, surtout l'Europe du Sud. Mais aujourd'hui, on a vu une grosse évolution avec une aire de cannabis européenne qui a explosé et qui concurrence de manière très forte. Donc aujourd'hui,
avec le THC, c'est-à-dire le taux d'hydrato-cannabinol très très fort, paraît-il, beaucoup plus fort qu'avant.
Voilà, avec des teneurs beaucoup plus fortes qui s'expliquent notamment par la concurrence entre l'herbe et la résine, ce ne sont pas les mêmes filières et donc ils se sont concurrencés et fait augmenter la teneur exprès.
Et sur le deuxième aspect de la question sur le Maroc, avec et ça rejoint la question de notre auditrice précédente, avec des intérêts directement liés à Mohamed VI, fantasme ou réalité ?
Il n'y a pas d'informations qui vont dans ce sens-là. En tout cas, il est clair qu'il y a une coopération qui intervient et que aujourd'hui d'ailleurs, je crois qu'il y a des changements législatifs au Maroc qui sont à noter.
En tout cas, totalement récent, oui, absolument, très récent.
Très récent, et il y a une coopération notamment sur la cocaïne qui est très forte avec le Maroc.
Et puis il y a donc une autre question de notre auditeur sur la légalisation. C'est une vieille idée de légaliser le commerce de cannabis qui en théorie assécherait cette légalisation, elle assécherait les économies souterraines. Pourquoi est-ce que cette vieille idée reste dans les cartons? On va poser la question à Philippe Pujol.
Déjà, elle est dans les cartons uniquement en France, parce que c'est le seul pays d'Europe qui ne fait aucune déréglementation, d'aucune forme. Là où dans tous les autres pays, il y a des chemins. Un coup, ça décriminalise la consommation. Par moments, ça accepte la consommation thérapeutique. D'autres endroits, c'est la libéralisation totale, comme en Hollande. Mais en France, il n'y a rien de tout ça. Et donc ça, déjà, c'est une erreur majeure. Ensuite, est-ce que d'aller vers une déréglementation, quelle qu'elle soit, ça assécherait tout? Non, puisqu'il resterait deux réseaux, la contrefaçon et la contrebande. Il resterait de toute façon ça. Cependant, il y aurait quand même moins de trafic et on aurait notamment plus de forces de police qui pourraient faire autre chose plutôt que de vider la mer à petite cuillère comme c'est le cas aujourd'hui. On aurait aussi surtout quelque chose qui n'est pas souvent assez répété, c'est que travailler sur une déréglementation, allez, on va dire une légalisation, si vous voulez, c'est travailler sur les consommateurs qui auraient un cadre légal qui fait qu'on pourrait vraiment aller sur une désintoxication, parce qu'il y a beaucoup plus de toxicomanes en France que de consommateurs festifs. On a beaucoup plus de gens qui prennent du cannabis sur des questions de mal-être ou par rapport à leur travail, etc., ou de la coke encore plus pour être performant, que des gens qui font ça de façon festive. Donc ça, c'est pas assez répété. La consommation française, c'est principalement une consommation de substitution. Et là, ça demande vraiment un travail qui ne peut être fait que dans un cadre légal, donc dans un cadre de déréglementation. Moi, je pense qu'on est obligé d'y aller, en fait. C'est pour des questions morales et politiques qu'on n'y va pas, mais on serait le seul pays d'Europe à pas le faire, c'est pas possible, en fait.
Mais la France fait tout de même partie des pays les plus répressifs en Europe en ce qui concerne le cannabis.
C'est le pays le plus répressif.
Et en même temps, la France
est le plus de consommation.
Bah, c'est tout de même un paradoxe, non?
C'est lié. Non, c'est pas un paradoxe. À partir du moment où on est hyper répressif, consommer du cannabis est illégal, mais on consomme quand même parce que on est soit dans du mal-être, soit dans un besoin absolu psychologique, etc. Malgré la répression, on va tout faire pour continuer à consommer, puisque c'est un besoin presque comme un manque. Par contre, si on est dans un cadre légal, comme ça a été le cas au Portugal, on peut laisser au monde de la santé la possibilité de travailler sur les toxicomanes, travailler sur les addictions. Et on fait baisser considérablement les addictions. Dans ces pays, ça a marché. Portugal, Espagne, c'est un franc succès.
Alors, répression aussi sur le terrain. David Van Berger, récemment le ministre de l'Intérieur, disait vouloir harceler les dealers. Comment est-ce que la police peut harceler les dealers?
Alors, moi, je suis pas policier, donc je peux pas vous répondre techniquement.
Vous avez une vue globale, quand même, de la situation.
En tout cas, tout ce qui va vers le démantèlement des filières, qu'il soit de la vente au détail jusqu'au gros trafic internationaux, est la bonne stratégie. En fait, il faut vraiment avoir une vision globale et c'est ce qui s'opère. La lutte anti-drogue en France comme à l'international s'est professionnalisée, est de plus en plus efficace, essaye de cibler de plus en plus les réseaux, même si c'est extrêmement difficile, Monsieur Pujol l'a dit, et que ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est ça la stratégie gagnante, avec notamment une coopération internationale la plus forte possible.
Je pose la même question à Philippe Pujol. Harceler les dealers, comme dit le ministre. D'abord, est-ce que la police en a les moyens?
Passer vider la mer à la petite cuillère. C'est exactement comme si on prenait des infirmiers pour soigner un cancer. C'est-à-dire que c'est perdu d'avance. C'est uniquement une approche politique et médiatique des choses. C'est foutu, quoi. Puisque de toute façon, on fait rêver les jeunes dans le stup. C'est-à-dire on leur fait croire qu'ils vont avoir une carrière. C'est le rôle des dealers de terrain de faire ça. Donc quand on en sort, eh bien, il y en aura d'autres qui vont venir. C'est éternel. De toute façon, il y a un turnover énorme. Il n'y a pas de dealer qui reste dealer très longtemps. Donc, ça ne change strictement rien. Cette répression-là, qui est ni de l'enquête, ni de la prévention, ne sert strictement à rien.
Emmanuel Leclerc.
C'est aussi harceler les consommateurs, faut pas l'oublier. 140 points de vente à Marseille. C'est pour ça que vous dites que, de toute façon, c'est vain. C'est totalement vain, cette stratégie. Pourtant, le ministre a encore annoncé deux compagnies de CRS en permanence désormais pour Marseille. Et justement, ils vont essayer de couper l'accès. Mais je crois qu'à Marseille, c'est un peu particulier, puisque de toute façon, les points de deal en question, les points de vente, sont dans le centre-ville.
Mais ils ont un niveau d'adaptation dans ces réseaux qui est inimaginable. C'est-à-dire qu'ils sont capables, dans les 20 minutes, s'adapter à une situation. Des CRS arrivent, eh bien, on va passer par ailleurs. Il n'y a pas de problème. 140 points de vente, c'est la version sympa. Je pense qu'il faut doubler les points de vente. C'est 140 cités, mais il y a beaucoup plus de points de vente. Et en fait, les consommateurs ont besoin de consommer, les vendeurs ont besoin de vendre, c'est pas quelques flics qui vont empêcher tout ça, sachant que à l'approche de chaque élection présidentielle, on a des CRS qui sont envoyés. Sarkozy, quand il se représentait en 2012, avait envoyé beaucoup plus de CRS que Darmanin maintenant. C'était un échec complet, c'est perdu d'avance. C'est uniquement médiatico-politique, il n'y a pas d'autre but que ça.
Pareil quand le ministre dit aussi qu'il veut frapper les dealers au portefeuille, c'est-à-dire récupérer l'argent de la drogue, saisir les comptes bancaires, les maisons et autres voitures de luxe.
Ça, il faut le faire dès que possible. Les voitures de luxe, il les loue, donc tu ne vas pas les saisir. Puisque les voitures de luxe, c'est des voitures qui sont louées à 10, à 15, juste pour faire les marioles. Et l'argent, généralement, s'en va, ne reste pas dans une ville comme Marseille, où il y a un petit peu de blanchiment, mais le gros du blanchiment, par ailleurs, par à l'étranger, selon différents réseaux. Mais évidemment, si on peut saisir les avoirs des bandits, il faut le faire, évidemment. Ça.
Et le président Macron, on parlait de la politique, qui devrait se rendre à Marseille dès la semaine prochaine, hein, pour annoncer, semble-t-il, un grand plan pour la ville, Philippe Pujol, vous n'en attendez pas grand-chose, si, tout de même.
Je sais pas, ce que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'à Marseille, il y a quelque chose qui est lié, par règlement de compte, mais au trafic de stupes. On a des écoles dans un état totalement déplorable. Allez, on va pas chercher de responsables. Tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a des écoles qui sont dignes d'écoles du quart-monde, notamment dans les quartiers populaires. Comment réussir à amener les gamins qui vont devenir ensuite des jeunes travailleurs vers une carrière quelconque, si dès le début c'est biaisé? Donc déjà, il faut refaire ces écoles, c'est un bon milliard d'euros d'entrée de jeu. Ensuite, il n'y a pas de transport en commun. C'est ridicule, les transports en commun marseillais, c'est même une blague et c'est une galéjade. Donc en fait, il faudrait déjà faire des transports en commun. On parle de 2 milliards d'euros de plus là. Évidemment, Marseille, qui a toujours été maltraitée par l'État, qui a toujours été, à travers l'histoire, pas ces dernières années, à travers les décennies passées, à partir du moment où les colonies ont arrêté, Marseille n'a plus d'intérêt. Donc c'est quand même la deuxième ville de France qui est un laboratoire de toutes sortes de choses, notamment des questions de sécurité et des questions de migration. Si on n'y met pas des moyens considérables, eh bien on laisse s'effondrer une partie de la France. Pour moi, il y a des moyens considérables à mettre sur Marseille, mais avec en retour un regard particulièrement précis et important sur les sous qui vont être injectés, parce qu'à Marseille, des fois, on a des coquins et tous les sous qui sont mis ne vont pas là où il faut. Donc ça, il faut travailler. Mais il faut 3 milliards, comme on a mis dans la grande couronne parisienne. Il faut 3 milliards.
3 milliards à Marseille, comme dans la couronne parisienne, David Van Berger.
Oui, je suis d'accord, mais il faut prendre un petit peu de perspective internationale, et on voit qu'il y a plein d'autres pays qui ont d'autres problèmes, qui sont confrontés à ces situations. Les Pays-Bas aujourd'hui sont extrêmement touchés par des assassinats, des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants qui est énorme, et on le voit, en fait, il y a un côté systémique qui fait qu'aujourd'hui la production et la consommation augmentent, explosent, et ce, quels que soient les régimes législatifs. Donc, on est dans une question sur laquelle il faut travailler sur le fond, mais la France n'est pas particulièrement la plus touchée par rapport à d'autres pays.
Emmanuel Leclerc.
Oui, d'ailleurs, là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la légalisation, quel que soit le pays. Là, on parle, et dans ce que dit David, c'est on parle notamment de la cocaïne, hein, ces dernières années, et ça rapporte 30 fois plus. Donc, les gens qui sont à la tête de ces réseaux, c'est des gens qui, aujourd'hui, deviennent des multimilliardaires assez rapidement, et c'est là que c'est inquiétant. Et vous parliez des Pays-Bas. Est-ce que ça vous inquiète de voir, là, ces derniers mois, justement, toutes les saisies? Parce qu'en fait, il faut savoir que, quand même...
Gérald Darmanin a annoncé des records saisis.
Oui, mais pas seulement.
Des saisies records.
Absolument, et pas seulement en France, hein, aux Pays-Bas, puisqu'il y a eu des grandes opérations policières avec des infiltrations, des messageries, des téléphones cryptés par la police, notamment par les gendarmes français au départ, mais également par les polices néerlandaises et américaines pour la dernière en date. On se rend compte à quel point ces gens-là font rentrer des tonnes de cocaïne par les ports. Le Havre, même Marseille, il y a eu une affaire en février dernier, même si c'est pas la route principale, les Pays-Bas, la Belgique, et ça, qu'est-ce que vous avez pensé là de ces derniers mois? Parce que on se rend compte à quel point c'est phénoménal.
Toutes ces affaires montrent qu'en fait les policiers reprennent la main. Alors ça va durer un temps parce que les saisies qui augmentent, en fait, c'est un indicateur de performance. Là, effectivement, on voit que dans ce jeu du chat et de la souris, les policiers sur tout ce qui est interception téléphonique reprennent la main jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle innovation technologique qui va donner l'avantage aux trafiquants. Ce qui est certain, c'est que dans le monde entier, la situation liée aux stupéfiants est catastrophique et que là, on le voit, les actions, les modèles économiques, les modèles juridiques, aucun modèle n'arrive vraiment à enrayer cette espèce de flux criminel.
Avec une question en prime, est-ce qu'il ne faut pas se méfier des statistiques ? On a parfois entendu des policiers sous couvert d'anonymat dénoncer des politiques du chiffre, c'est-à-dire faire monter les statistiques de saisie et d'arrestation. Philippe Pujol, est-ce que ça ne sert pas surtout à faire monter la cote de popularité du ministère de l'Intérieur ?
Ce qui est sûr, c'est que les questions liées à la drogue, les questions liées à la délinquance sont toujours exacerbées au moment où il y a des élections. Et ce qui est sûr aussi, c'est que Marseille est toujours utilisée, parce que c'est une ville idéale pour ça, pour parler des questions soit d'immigration, c'est pas le cas ici, soit de délinquance et souvent la drogue. Donc Marseille, c'est une soupape qui permet de parler des questions de sécurité en France, parce que les Marseillais l'acceptent, ils le tolèrent, ils l'assument, et parce que l'opinion publique française a intégré le fait que Marseille-délinquance, c'est lié. Même s'il y a de la délinquance ailleurs, on accepte ces deux mots-clés, Marseille-Kalachnikov, ça va ensemble. Et donc, d'un point de vue politique, il y a un usage récurrent qui est fait là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, il ne faut pas exagérer non plus. Mais il faut se dire une chose, c'est que les règlements de compte, ça n'est l'indicateur que d'une seule chose, de la concurrence. C'est-à-dire que c'est pas l'indicateur d'un niveau de banditisme. Il peut y avoir beaucoup de banditisme et pas de règlement de compte. C'est arrivé dans les années 2000 et 2001 à Marseille où il y a eu quasiment aucun réglo parce que le milieu était particulièrement bien structuré.
C'est-à-dire pour comprendre, Philippe Pujol, l'origine des règlements de compte, c'est quoi ? C'est des motifs de territoire et aussi des dettes impayées ?
On va faire simple. Il y a quelques raisons de se tirer dessus, de se flinguer. C'est d'abord la guerre de territoire, le grand classique. Le deuxième, c'est la vengeance, en retour. Ensuite, il y a le meurtre préventif. On va me tuer, donc vite, faut tuer l'autre. Ensuite, il y a se montrer fort, c'est-à-dire montrer qu'on est un clan costaud. C'est souvent là qu'on utilise des armes de guerre particulièrement puissantes. Et souvent, on va tirer sur le premier venu, c'est-à-dire les choufs. C'est là qu'on a des petits. Et après, il y a ceux qui sont très endettés. Parce que c'est un milieu qui ne marche que sur la trahison. La drogue, c'est vraiment le milieu de la trahison. Les braqueurs, c'est le milieu de la confiance. La drogue, c'est le milieu de la trahison. Donc, ces gens-là, il faut en permanence se montrer fort. Fort, ça veut dire chez eux, puissant. Ils appellent ça le respect, entre eux. Le jargon, c'est « je suis respecté », ça veut tout simplement dire « je suis craint ». Et pour être craint, ben, vaut mieux tirer avec une calache qu'avec un 9 mm. Vaut mieux brûler un mec dans un coffre plutôt que simplement lui mettre une grosse tête. C'est ça le truc. Comme les mecs, en plus, ils sont sous coque maintenant, ça fait que le passage à l'acte est possible.
Est-ce que ça peut être aussi, Philippe Pujol, des arrestations, des opérations après de longues enquêtes ? Ça peut être aussi de la coopération internationale. On l'a vu justement, puisqu'un gros trafiquant marseillais, je crois, a été arrêté à Dubaï il n'y a pas très longtemps. Il y a eu quelques opérations ces dernières années de la police judiciaire française là-dessus. Est-ce que ça peut être ça aussi ?
Bien sûr, celui de Dubaï, celui qui a été arrêté à Dubaï, c'est une célébrité à Marseille. Ils étaient plusieurs frères. Il y en a un qui a été tué avant que lui parte, il était en cavale. Et évidemment, ils font comme les influenceurs, hein, comme les Instagrammeurs, ils vont tous à Dubaï. Parce qu'en fait, c'est des gens qui suivent l'air du temps. Ils sont pas aussi malins qu'on le pense. On est toujours en train de nous les faire passer pour des grands cadors, mais pas du tout. Et en y mettant un peu quelques moyens, on arrive à les trouver. Par contre, ils ont des moyens financiers suffisamment importants pour se protéger, pour se cacher, pour se défendre, quoi. Mais évidemment, la coopération internationale est primordiale, et même au niveau national. Et je vais vous dire, même la coopération entre la police et la gendarmerie, qui est loin, loin, loin d'être au point, rien que dans la région Provençale-Côte d'Azur.
On pensait que c'était apaisé, les guerres de police, non ?
Non, mais c'est pas une question de guerre, c'est une question de fluidité entre les informations et les compétences. Il n'y a pas forcément la guerre à chaque fois, loin
d'accord.
De là.
Il est 19h47, on parle des trafics de drogue en France jusqu'à 20h avec au standard de France Inter 01 45 24 7000. Frédéric qui nous appelle. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question ?
Ah ben, la question est simple. En fait, le trafic de drogue génère de l'argent. L'argent est, j'imagine, essentiellement liquide, donc des liquidités. On est en phase de dématérialisation sur un tas de sujets, dont l'argent. Si demain il n'y a plus d'argent liquide et que en gros tout le monde paye en moyen dématérialisé, est-ce que quelque part ça peut pas endiguer ce trafic, même si j'imagine qu'ils sont déjà adaptés, mais voilà, en gros s'il n'y a plus de liquide demain, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, on va poser votre question à David Weinberger, qui est sociologue et co-directeur de l'Observatoire des criminalités internationales de l'IRIS. Plus de monnaie dématérialisée, plus de trafic ?
Je pense pas.
Avec une monnaie dématérialisée, plus de trafic ?
Je pense pas. Déjà, on utilise les crypto-monnaies dans le trafic, que ce soit dans la vente au détail ou dans le gros, donc il y a une adaptation. On a vu des pays où ça a été légalisé, et notamment pour d'autres raisons, il y avait plus d'accès au cash, et ils trouvent d'autres solutions, hein, des cartes prépayées, des abonnements. En fait, tant qu'il y aura de l'argent, il y aura du trafic, et je vois pas comment une société peut arriver d'arrêter totalement une monnaie virtuelle. En fait, il y aura toujours besoin de liquidité cash.
Et question également, je vous la donne par écrit, à propos de l'injonction thérapeutique, hein, depuis 1970, lors de la loi fondatrice sur le trafic de drogue en France, il y avait une injonction thérapeutique. Pourquoi est-elle si peu appliquée depuis?
Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais elle est appliquée, elle est notamment appliquée sur les primo-délinquants. En fait, il faut pas croire que les magistrats n'utilisent pas les alternatives à la prison. Après, le rôle d'une justice éclairée, c'est quand même de pouvoir adapter la peine à l'infraction et à la personne qui est condamnée. Donc là, je pense que c'est quand même une fausse idée.
Alors, question aussi sur les go fast, hein, alors c'est-à-dire les traversées de la France en voiture à vive allure avec une première voiture qui ouvre la route pour alerter celle qui est derrière. Le go fast, nous dit cet auditeur, a été remplacé par les go slow. Ça veut dire quoi, les go slow?
Les go slow, c'est des véhicules qui vont rester dans le flux des véhicules normaux, donc avec des personnes qui ont leur ceinture attachée, qui font pas de dépassement de vitesse, qui empruntent les autoroutes et les voies routières classiques pour être discrets.
Ouais, c'est pas des gros cylindrés non plus, c'est des voitures de Monsieur Tout le Monde.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute la stratégie aujourd'hui des revendeurs, c'est de se rendre très, très discret, et ça marche.
Bah, ça fait longtemps en fait que ça existe. Effectivement, les go fast, avec comme c'est un caractère exceptionnel, ont été mis en avant, mais en fait, les go slow ont toujours existé.
À propos des amendes, hein, on en parlait tout à l'heure. Question sur ces amendes forfaitaires de 200 euros pour les consommateurs de cannabis. Amendes qui restent souvent impayées, nous dit cet auditeur. Pourquoi? C'est une population qui est souvent insolvable.
Alors, je ne sais pas, je suis pas certain qu'il y ait de chiffres précis. En tout cas,
parce que c'est tout neuf, hein.
L'amende forfaitaire délictuelle est une suggestion pour trouver des alternatives aux poursuites tout en gardant l'interdit. Donc je pense que dans 2-3 ans, on aura des retours, effectivement. Mais aujourd'hui, il est extrêmement difficile de pouvoir évaluer cette amende.
Emmanuel Leclerc.
Alors c'est surtout que ça peut être inscrit au casier judiciaire. C'est sur ça que compte le gouvernement pour dissuader des consommateurs d'aller acheter de la drogue dans des supermarchés à ciel ouvert, dans des quartiers. Et c'est ça qu'ils veulent éviter, en espérant que ça puisse dissuader. Je crois que ça ne concerne pas les mineurs, malgré tout.
Alors, ça ne concerne pas tout le monde, et en fait, elle n'est pas systématique. C'est-à-dire que c'est le magistrat qui va décider si ça va être une sanction pénale classique, une alternative aux poursuites type injonction thérapeutique si c'est des consommateurs, ou que c'est toujours des consommateurs d'ailleurs, puisque ça ne concerne que les consommateurs, ou l'amende forfaitaire délictuelle. En fait, c'est un nouvel outil dans les sanctions possibles.
On parlait de coopération internationale. Jean nous écrit « Il faut d'abord limiter les sources d'approvisionnement installées dans certains pays. » Il cite l'Afghanistan, le Maroc, la Colombie. « S'il n'y a pas d'apport, alors il n'y aura plus de problème. » Cette coopération internationale aujourd'hui en France, elle est solide ?
Elle augmente. Alors, dans le monde entier, elle augmente. Clairement, elle est bien meilleure qu'il y a 10 ou 15 ans. Les Français sont parmi les polices qui coopèrent le plus, hein, c'est-à-dire que dans le top 5 des polices à l'international, la France y est, et donc c'est un travail au quotidien, mais c'est un travail aussi qui intègre des enjeux de la diplomatie, c'est une activité complexe, hein, de faire de la coopération internationale.
Question sur la crise sanitaire. Dans quelle mesure la crise de Covid, avec ses confinements successifs, a favorisé ou non le trafic de drogue ?
Alors on s'est posé beaucoup de questions. On a vu au premier confinement qu'il y avait quand même une diminution a priori du trafic, et les trafiquants, surtout les plus gros, ont su s'adapter, notamment par le passage plus systématique à la vente à distance, et puis sur les gros trafics à l'international par je dirais le transfert massif de l'arrivée par fret maritime, puisque la voie commerciale aérienne était quand même sérieusement limitée.
Et puis il y a une question aussi, je vous la pose, Philippe Pujol, sur les consommateurs. S'il n'y a pas de consommateurs, alors il n'y a pas de trafic. Il a pris, cet auditeur, une phrase que vous aviez dite tout à l'heure, il me semble. Une campagne sur les dangers de la drogue serait plus salutaire que de renforcer les effectifs de police un peu partout. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Pujol?
Alors, pas exactement. Une campagne sur les dangers de la drogue, ça aurait pas beaucoup d'effet. Par contre, une campagne qui travaille sur les personnes en addiction, c'est-à-dire une grande majorité des gros consommateurs, ceux qui génèrent le plus gros chiffre d'affaires, finalement, sont principalement des gens qui sont sous des addictions, qui fument quotidiennement ou qui prennent de la coke quotidiennement. Cela, il y a un travail à faire pour que, par des moyens médicaux, psychologiques, qui sont maîtrisés aujourd'hui, soit déjà moins consommateurs, voire par la suite plus du tout consommateurs. Ensuite, des campagnes dans les collèges, les lycées, les écoles font en faire sans grande illusion, parce que ça existe déjà, il faut quand même en faire, peut-être qu'il faut évoluer là-dessus, il faut s'améliorer. Mais c'est surtout de l'approche de santé publique qui est importante pour moi.
On disait tout à l'heure que le THC est plus important qu'il y a quelques années.
Largement.
Comment on explique ça?
Bon, les OGM, les OGM tout simplement, ou les sélections, qui font que je vais pas donner le nom de la cité marseillaise qui gagne chaque année le grand concours de THC dans un cannabis social club espagnol, mais c'est une cité marseillaise qui gagne depuis bien 5 ou 6 ans un taux à plus de 38% à chaque fois de THC, ce qui est beaucoup. Et c'est tellement que ça permet une chose toute simple, ça permet de couper tout simplement la drogue. Mmh. Et quand on la coupe, la couper, ça veut dire l'additionner à un produit pour que ce soit plus lourd. Par exemple, quand c'est du cannabis, de la résine de cannabis, on le coupe avec du henné. Ça, c'est des sympas qui font ça, parce que le henné, c'est un antifongique. Voilà, c'est la couleur. Au moins, c'est pas nocif. Et les pires font ça avec de l'huile de vidange ou du goudron ou du pneu. Et donc, ça donne des shit qui sont encore plus nocifs par leurs produits de coupe. On a la même chose avec la coke, qui est très, très pure, et qu'on finit par couper avec des produits qui sont encore plus néfastes que le produit lui-même. Et c'est parfois très inquiétant, parce que ça va jusqu'à être coupé, des fois, avec des neuroleptiques pour animaux. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un petit effet. Donc, on va chercher ce qu'on trouve, des trucs puissants, des anxiolytiques pour vaches.
Bon, ça fout les jetons, hein, ce que vous dites, Philippe Pujol. On parlait d'argent tout à l'heure, alors on a bien compris que les voitures de luxe étaient des voitures louées. Encore une question sur l'argent de Caroline. Quid du fisc qui confisquerait les biens mal acquis des trafiquants? C'est un peu El Capone, aller chercher le trafiquant là où ça fait mal au portefeuille.
Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quoi qu'il arrive, l'un des problèmes que rencontrent les réseaux, plus ils grossissent, c'est le blanchiment, c'est-à-dire avoir un snack ou une onglerie. À Marseille, quand il y a des ongleries, c'est louche. Quand avoir un snack, une onglerie, c'est tout simple. Ça veut tout simplement dire que, au lieu de déclarer un client, t'en déclares 20, et en fait, tu fais passer ça en argent, et tu légalises l'argent. Mais ça, c'est pas pour des sommes astronomiques. Quand on commence à toucher des réseaux qui font plus d'un million d'euros par mois, il y en a beaucoup, là, il faut des réseaux de blanchiment qui sont plus costauds, et là, en effet, aux autorités de travailler dessus, ils y arrivent plus ou moins. C'est évident que c'est important. Mais là, d'ailleurs, ça me permet de revenir sur une question qu'il y a eu au tout début sur est-ce que l'argent de la drogue est un pilier de la politique de la ville? Pardon. Est-ce que ça soutient les cités ou pas? En fait, c'est une idée reçue, ça soutient pas les cités. Les cités marseillaises ou autres ne sont pas soutenues par l'argent de la drogue. Quelques familles seulement bénéficient de l'argent de la drogue, finissent d'ailleurs par le payer d'une manière ou d'une autre, mais la plupart subissent les questions de stup. Ce qui veut dire que si demain, par miracle, on arrivait à arrêter ça par la légalisation ou par une répression efficace, ça poserait pas forcément de gros problèmes sociaux dans les cités. C'est un peu une idée reçue qui est fausse. On arriverait à mettre en place des choses qui compenseraient largement le peu d'argent que se font quelques familles.
Quoi. Allez, sur l'argent, David Van Berger, un commentaire?
Oui, sur l'argent, c'est la stratégie que tous les États développés ont mis en place pour taper les trafiquants au portefeuille, comme dit le ministre Darmanin. Et c'est une vraie stratégie payante, on le sait. Surtout les gros intègrent le passage en prison, ils détestent faire confisquer. Et aujourd'hui, la France a des outils législatifs et des outils d'investigation qui sont très efficaces.
Mais est-ce que vous avez le sentiment, David Weinberger, c'est que ce soit au niveau français mais au niveau européen, que les enquêtes, parce que ce sont les enquêtes les plus difficiles pour aller taper les collecteurs, hein, notamment ceux qui prennent l'argent et qui le transportent d'un pays à un autre. Est-ce que ça, vous avez l'impression que ça a progressé ou pas? Parce qu'il y a eu des très belles enquêtes il y a une dizaine d'années. Et est-ce que vous avez l'impression que ça continue? Parce que c'est très difficile.
Oui, les policiers, notamment l'OCRGDF qui a fait de très belles enquêtes il y a une dizaine d'années, ont su développer des nouvelles stratégies, des nouvelles routines d'investigation qui s'adaptent à ce genre de choses. Alors ça doit se diffuser encore plus dans le monde de la police, mais c'est en train de se faire, ça prend du temps, et ça a vraiment des retours efficaces.
Allez, j'ai une dernière question. Qui a vu le film La BAC Nord avec Gilles Lelouch, demande cet auditeur, dans le rôle des flics de la BAC de Marseille qui pensent avoir perdu le combat face aux gangs de mieux en mieux organisés? En quelques secondes, est-ce que c'est réaliste? Tiens, je pose la question à Philippe Pujol en trois mots.
Bah, désolé, j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous dire si c'est réaliste. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai couvert l'histoire de la BAC Nord quand j'y étais, et qu'on était uniquement dans une guerre des polices, et que la BAC Nord n'était pas véreuse. Elle était juste pas très, très clean administrativement, ça c'est sûr.
En 10 secondes, ensuite, Emmanuel Leclerc, vous avez vu le film.
C'est Philippe Pujol qui effectivement a révélé l'affaire. Moi j'ai vu le film, oui, évidemment, c'est assez crédible.
Eh bien merci d'être venu éclairer nos lanternes. Il y aura encore pas mal de questions à se poser et on suivra évidemment les mots d'Emmanuel Macron qui va se rendre à Marseille la semaine prochaine pour annoncer un plan de la ville. À la préparation ce soir, il y avait Adèle Domas, Pierre Dessertaine et Zoé Fauché. Elle a été technique Philippe Duclos et Fabrice Desmaz.